Elisabeth Brami, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne. Comment expliquer que le sentiment de culpabilité puisse s'installer sans être justifié par des faits ni des actes?
C'est très souvent le résultat d'une éducation. C'est le résultat d'un moule, ou judéo-chrétien ou autre, qui met l'enfant en difficulté et lui donne, je ne dirais pas à tout jamais, mais les bases d'une image désastreuse de lui-même et de ses incapacités. C'est-à-dire, toute erreur devient une faute, et la faute n'incombe pas seulement à l'école, mais déjà aux parents, parce qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités entre 0 et 3, l'âge où il y a toutes les expériences possibles, et où effectivement l'enfant peut se sentir nul et incompétent et incapable. Les parents pensent qu'il n'y a aucune prise de risque à faire courir aux enfants. Donc, ne monte pas là-dessus, tu vas te casser la figure. C'est déjà une très mauvaise idée. C'est pas l'encourager à devenir coureur olympique.
Ça veut dire que des mots a priori anodins peuvent faire mal. Pour autant,
absolument,
il faut rester naturel dans l'éducation.
Oui, et en matière scolaire, comme le disait très bien Stella Baruc, une mathématicienne et psy, on n'a pas à dire à quelqu'un, à un enfant, qu'il est nul en maths, mais son devoir est nul. C'est très différent que de toucher à sa personne. Mmh. Les parents, très souvent, aussi étiquette l'enfant. Et au nom de « toi t'es né comme ça, c'est tout ton père », etc., mais il n'y a plus moyen de se dépêtrer de cette sale image qui vous colle à la peau.
Merci beaucoup Elisabeth Brami. Tout à l'heure, à suivre, un reportage long format de Priorité Santé signé Charlie Dupiot. Il sera question du lien patient-soignant, expérience et attente des patients, formation, réflexion, améliorer la communication pour améliorer soins et accompagnement. On se retrouve à 9h10 temps universel.